Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la Pologne, de son armée qui monte en puissance et de sa relation plus généralement au fait militaire, alors que le pays est évidemment en première ligne, très littéralement, depuis les débuts de l'invasion russe de l'Ukraine, et que tout ça a relancé un très ambitieux programme de réarmement, de montée en puissance militaire. J'ai le plaisir de recevoir une habituée du collimateur, Amélie Zima, chercheuse sécurité européenne à l'IRSEM. Je vais rappeler que vous étiez notamment venue nous parler de l'OTAN, dont vous êtes une spécialiste, et je signale d'ailleurs que votre « Que sais-je » sur le sujet, judicieusement intitulé « L'OTAN », vient de connaître une nouvelle édition. Mais je vais ajouter que votre spécialité originale, puisque c'est le sujet de votre thèse, c'est la manière dont les pays d'Europe de l'Est, anciennement dans le bloc soviétique, ont été intégrés à l'OTAN dans la décennie 2000, et notamment la Pologne, dont vous êtes particulièrement spécialiste. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le collimateur.
Bonjour Alexandre Jublin.
Alors, je vais dire que la Pologne est un cas que je trouve en fait assez passionnant, à la fois d'un pur point de vue militaire et capacitaire, mais aussi, plus généralement, quant à la question, disons, de la place de l'armée et des relations civilo-militaires, ce qui est vraiment un peu la trame de fond du réarmement actuel et une dimension de la question qu'on regarde peut-être pas assez, en tout cas qui passe peut-être un peu au second plan. C'est-à-dire que, voilà, il y a évidemment les chiffres qui sont très impressionnants, tant ceux de l'aide militaire que la Pologne a fournie à l'Ukraine depuis le début de la guerre, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de chars, par exemple, mais pas seulement, que ceux du recomplètement et même bien au-delà de leur stock, puisqu'on peut signaler qu'ils ont certes commandé donc 250 chars pour remplacer les T-72 qu'ils ont envoyés aux Ukrainiens, mais ils ont aussi commandé 1000 chars K2 à la Corée du Sud, avec en plus des pièces d'artillerie, des F-35 et toutes sortes de choses encore. Mais derrière, il y a toute une question qui est plus vaste et qui est hyper intéressante, de la relation de la Pologne à son armée, mais aussi de sa place dans l'OTAN, parce que, évidemment, ils sont très investis dans l'Alliance Atlantique, disons ça comme ça, et des gros demandeurs de cette garantie de sécurité-là, notamment américaine. Mais on peut dire tout de suite que ça n'a pas toujours été facile, notamment en raison, disons, du pouvoir politique actuel en Pologne, et en particulier des purges massives dans l'armée depuis bientôt une décennie maintenant, ce qui a évidemment posé plein de questions à l'échelle otanienne sur lesquelles on va revenir. Mais le plus simple, le plus évident peut-être pour essayer de saisir la cohérence de tout ça, c'est quand même de procéder un peu par ordre chronologique. Alors on ne va pas non plus refaire l'histoire du pacte de Varsovie et du bloc de l'Est, mais un point de départ intéressant serait peut-être justement la séparation avec l'URSS, et du coup la naissance, la nécessité de créer aussi un système, appelons ça politico-militaire, des relations civilo-militaires, vraiment à la fois un système indépendant, qui soit plus sous satellite de l'URSS, qui soit aussi un peu plus adapté aux normes contemporaines, puisque évidemment il va y avoir ensuite la question de l'intégration à l'OTAN. Donc voilà, comment est-ce que ça s'est passé, disons à partir du début des années 90? Je vais juste mentionner, il y a un haut gradé polonais qui est cité dans votre thèse, qui a appelé ça, je cite, « la purge la plus civilisée jamais conduite ». Alors comment est-ce que ça s'est passé, cette sortie, disons, du cadre russe et soviétique, et cette autonomisation, en quelque sorte, du système militaire polonais?
Alors, la création, en fait, de l'armée polonaise, celle qu'on la connaît maintenant, et la mise en place du contrôle civil et démocratique sur le militaire, c'est quelque chose, en fait, qui date d'avant la dissolution des structures coercitives soviétiques. Puisqu'en fait, les premières réformes, elles datent de 89, et la dissolution de l'URSS et du pacte de Varsovie, c'est 91. Alors, ça commence, en fait, quand l'opposition démocratique, donc, qui est emmenée par Solidarność, avec des personnes qu'on connaît, comme, par exemple, Lech Wałęsa, arrive au pouvoir.
Je le prononce avec mon horrible accent français, Lech Wałęsa.
Voilà. Wałęsa, donc des personnes aussi comme le premier ministre démocratique Mazowiecki, celui qui va être aussi ministre de la Défense dans les années 90, Onyszkiewicz. Donc ces personnes-là qui font partie de Solidarność, de cette opposition démocratique, arrivent au pouvoir à la suite des accords de la table ronde donc en 89 et vont mettre en place les premières réformes. Alors ce qu'on a en Pologne, c'est qu'on n'est pas obligé en fait de mettre, et dans les pays en fait de l'ex-bloc, on n'est pas obligé de mettre en place le contrôle civil. Parce que le contrôle civil, il existe déjà, puisqu'en fait les armées du pacte de Varsovie, elles étaient sous le contrôle des civils, sous le contrôle des politiques in fine. On n'est pas dans un régime prétorien, on n'est pas dans, non plus dans des régimes qui ont une tradition de coup d'État ou quoi que ce soit. Le militaire, en fait, est quand même contrôlé. Ce qu'il faut mettre en place, donc, c'est le contrôle démocratique sur les forces armées, et ce qu'il faut aussi réaliser, c'est la dépolitisation des forces armées. Donc le contrôle démocratique, ça signifie quoi? Ça signifie notamment donner un droit de regard au Parlement sur ce que fait l'armée. Donc ça passe par la création, et ça va être fait dans ces toutes premières années de transition, d'une commission au sein du Parlement en charge de la défense. Ça passe aussi par le fait de donner des droits au Parlement, le droit de voter le budget de la défense, le droit d'avoir un droit de regard sur l'achat et la vente d'armes.
Autant de trucs qui sont complètement invisibles, qu'on les regarde même plus, enfin, c'est important, ouais. Ces temps de LPM en France, mais on oublie complètement que mais en fait ça n'a rien d'évident, et c'est ça qui fait qu'il y a une vraie supériorité du civil sur le militaire, et que c'est vraiment ça les cadres généraux de la bonne relation civilo-militaire. Quoi.
Et aussi définir les compétences. Qu'est-ce que fait le chef d'état-major? Qu'est-ce que fait le ministre de la Défense? Qu'est-ce que fait le Premier ministre, le Président? Donc tout ça, ça doit être cadré. Et comme le disait un des premier ministre de la Défense civile en Pologne, qui est donc Janusz Onyszkiewicz, il faut en fait décider qui doit prendre la solution in fine. Et Onyszkiewicz disait qu'en fait la solution in fine doit être prise par le politique. Pourquoi ? Parce que c'est le politique qui est responsable devant les électeurs, en fait, devant les citoyens. Lui, ce qu'il m'avait donné quand je l'avais rencontré comme exemple, il m'avait dit par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, qui décide d'envahir l'Allemagne ou le Japon ? Bah, c'est pas le militaire, c'est le politique qui doit prendre cette décision-là, parce que c'est le politique qui est responsable devant le Parlement et devant les électeurs. Donc ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va donner ces droits au Parlement dont j'ai parlé, hein, voter le budget, signer les traités de paix, entrer en guerre, ce genre de choses, et aussi dissoudre au sein de l'armée les cellules des partis, et abolir l'enseignement idéologique qui pouvait être donné aux militaires.
Ouais, mais alors ce que vous indiquez, c'est que ça, bon, ça n'a pas été facile en fait. Enfin, c'est ce qui est normal, mais dans une certaine mesure. Mais il y a eu quand même toute une période dans les années 90 où vous relatez notamment dans votre thèse que, bah, par exemple, un personnage comme Lech Walesa, il va faire des trucs bizarres quand même par rapport à ce nouveau cadre censément démocratique qui est censé être créé. En fait, il va quand même beaucoup jouer. Bon, les ministres de la Défense vont pas avoir une grande importance à cette époque-là, et il va quand même y avoir. On n'appellerait pas forcément ça des abus de pouvoir, mais en tout cas, il va y avoir une certaine latitude et une certaine propension à jouer, en plus sur son rôle de héros national, sur sa figure, mais pour faire des choses qui ne sont pas tout à fait dans le cadre qu'on attendrait de bonnes relations civilo-militaires.
Bah, en fait, ce qui est surprenant, c'est que c'est Wałęsa, donc qui est donc le représentant de l'opposition démocratique, qui va avoir des actions justement un peu étranges durant la première moitié des années 90. Contrairement à son prédécesseur, le général Jaruzelski, hein, qui sera le président en fait, polonais durant cette période de transition démocratique, Jaruzelski, c'est celui qui a mis en place l'état de guerre en Pologne. Donc on se rappelle de lui à la télé avec ses lunettes noires tout le temps, parce qu'il avait les yeux brûlés, parce qu'il a, à cause de... il a passé un temps dans des camps en Sibérie, donc la neige lui avait brûlé les yeux. Et donc il avait tout le temps ses lunettes noires. Et donc lui, qui a instauré la loi martiale, l'état de guerre en Pologne, eh ben, il va respecter plus ou moins la nouvelle constitution, le nouveau partage de pouvoir et tout ça. Et Walesa, pas du tout. Walesa, en fait, il va avoir des actions qui visent à politiser l'armée. C'est-à-dire qu'il va rencontrer, par exemple, des officiers lors d'un dîner, c'est l'épisode qu'on appelle le dîner de Drawsko, et il va leur demander de voter à main levée pour ou contre la politique du ministre de la Défense. Il va y avoir un autre épisode qu'on appelle le dîner de Rembertouf, c'est là encore même configuration, des officiers, on leur demande de voter pour ou contre la politique du ministre de la Défense.
C'est dangereux les dîners en Pologne.
Voilà.
Le ministre de la Défense, c'est pas...
Le ministre de la Défense n'était évidemment pas présent, mais...
Le problème, c'est que du coup, ça a des vraies conséquences, c'est pas juste un vote à main levée. Après, il vire le ministre de la Défense.
Et pendant la campagne présidentielle de 95, on va encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a un membre de l'état-major qui va organiser des meetings pour Wałęsa dans les casernes, et il y a un amiral qui va menacer les soldats de ne pas payer leurs soldes s'ils ne votent pas pour Wałęsa à la présidentielle. Donc, on a une très forte politisation. Ça tient aussi à quoi ? Ça tient aussi au fait qu'on n'a pas changé à ce moment-là la Constitution. constitution en Pologne. On a la constitution communiste qui date de 1952, et là on est sous le régime de ce qu'on appelle la petite constitution, qui date de 92. On a juste modifié à la marge en fait la constitution communiste, et il y a ce qu'on appelle les ministres présidentiels. Ministre présidentiel, c'est défense, affaires étrangères, intérieures. Pourquoi on a ces ministres présidentiels ? Parce qu'il y a eu un partage du pouvoir, donc à la suite des accords de la table ronde. Donc le président, c'est Jaruzelski, c'est un communiste. Et en fait, les communistes voulaient avoir la main sur des ministères clés au cas où il faudrait reprendre en main très rapidement les choses, parce que voilà, finalement, l'expérience démocratique n'aurait pas trop plu. Et donc, ces ministres présidentiels, c'est de dire que le président donne son accord pour nommer défense, affaires étrangères, intérieures. Alors Jaruzelski n'a pas, en fait, profité de cet avantage, de ce privilège, mais bah, moins ça, si. Et il estime que c'est à lui de nommer, en fait, ses ministres présidentiels et que le gouvernement n'a pas son mot à dire. Donc on a des tensions entre gouvernement et président sur ces nominations-là de ces ministres présidentiels. Le problème qu'on a aussi durant cette période-là, c'est que le Parlement, on lui a donné des droits, mais il ne sait pas encore s'en servir. Il y a tout un apprentissage qui est nécessaire. Et en fait, ce qui est nécessaire aussi, c'est l'émergence d'une expertise civile sur les questions militaires, en fait. Et ça, on va avoir progressivement l'émergence d'une expertise civile. Ça va être justement ce ministre de la Défense, Janusz Korwin-Mikkevich, qui va être à plusieurs reprises ministre de la Défense. Ça va être aussi Bronisław Komorowski, qui va être ministre de la Défense, président de la Commission de Défense à l'Assemblée nationale, et qui va finir président de la République dans les années 2010. Donc, mais voilà, cette expertise met du temps à se mettre en place, et en fait, elle va être mise en place aussi parce que dans les facs, on va avoir aussi des programmes d'enseignement aussi sur les questions militaires qui vont permettre de développer cette expertise civile.
Alors ça, c'est l'apprentissage un peu difficile et douloureux de ces relations civilo-militaires. On en parle et on reviendra dessus parce que évidemment, ça place un peu le décor aussi pour tout ce qui va se passer à partir de 2015 et disons c'est des relations mouvementées mais dans un autre sens. Mais simplement, on peut peut-être aussi placer le tableau plus capacitaire, c'est-à-dire bah, voilà, la décennie 90, on sait que pour beaucoup de monde, c'est une période de déflation des effectifs. L'armée polonaise était une armée très importante. On peut le rappeler, la Pologne est un très grand pays et c'était un pays tout à fait clé du pacte de Varsovie. Donc comment est-ce que eux, disons d'un point de vue militaire de l'institution, ils prennent le coup de la dissolution du pacte et ben, de la difficulté peut-être à retrouver une identité sécuritaire tout de suite, quoi.
Alors, avec la dissolution du pacte aussi, ce qu'il faudrait rajouter, c'est qu'on a, aussi des... les services qui commencent aussi à être purgés, j'aimerais quand même revenir là-dessus aussi un petit peu, c'est-à-dire qu'on purge l'état-major, on purge les services de renseignement, on démantèle le renseignement militaire, donc il y a déjà tout ça qui se met en œuvre très rapidement au début des années 90, et on estime qu'environ 2/3 des agents des services sont purgés, tout ce qui est services de renseignement, on purge aussi une centaine de...
Apparemment ça s'est bien fait puisqu'ils appellent ça la purge la plus
civilisée. La purge la plus civilisée, et une centaine de généraux aussi.
On les a pas exécutés dans un coin, ils ont pu se déclarer, etc. Voilà. Et on les a laissés partir sans grande sanction.
Ce que leur dit un vice-ministre de la Défense, Radek Sikorski, qui est devenu un personnage politique polonais extrêmement important et qui est maintenant député européen, il leur a dit voilà, vous devez choisir. Soit vous acceptez l'idée d'une Pologne indépendante et qui va rentrer dans l'OTAN, et dans ce cas-là, vous restez dans l'armée, soit merci, au revoir. On vous laisse partir tranquillement et on ne fera pas effectivement de représailles contre vous. On a quand même une centaine de généraux qui sont aussi démis de leurs fonctions et en fait tous les officiers qui ont participé à l'instauration de l'état de guerre et de la loi martiale. Donc ça, c'est un peu le tableau pour voir ce qui se passe au niveau des effectifs. Et en fait, l'armée polonaise, effectivement, elle va vraiment diminuer de façon très importante, puisqu'on estime qu'environ il y a 315 000 soldats en 1990, il n'y en a plus que 200 205 000 en 1999. Donc on a quand même, en 10 ans, on a 100 000 soldats qui sont... l'armée a baissé de 100 000 soldats. Et le PIB consacré à la défense baisse un peu aussi, puisqu'on a 2,5 en 90, on a 2,1 en 99. Après, on a quand même une constante en Pologne de toujours consacrer au moins 2% du PIB.
Ça reste monstrueux pour des standards otaniens.
Voilà, il n'y a jamais eu de problème de ce point de vue-là, la Pologne est un bon élève. Alors, concernant l'adaptation capacitaire, en fait, ce que demande l'OTAN à la Pologne, c'est de préparer dans terre, marine et aérien.
Non, mais juste ça quand même, l'idée de l'intégration à l'OTAN, elle est arrivée quand ? C'est-à-dire, est-ce que c'est dès le début, c'est clair dès le début de la décennie 90, quand est-ce que le processus, quand est-ce que le désir se concrétise manifestement, et quand est-ce que le processus s'engage vraiment ?
Alors, ça ne vient pas tout de suite, ça ne vient pas dès le début de la décennie 90. Pourquoi ? Parce que dissolution de l'URSS et dissolution du pacte de Varsovie ne signifie pas évacuation des soldats soviétiques présents sur le sol de ces pays-là. Et en Pologne, il faut savoir qu'il y a eu soldats soviétiques présents jusqu'en septembre 93. Disons que le gros des unités est parti fin 92, mais il y a des unités qui sont restées jusqu'en 93 parce que c'était des unités qui supervisaient le passage des troupes présentes en ex-RDA, donc Allemagne réunifiée, et qui devaient revenir vers l'Union, enfin vers la Russie. Donc il y avait ce facteur quand même soviétique. Quand vous avez des troupes d'un pays étranger sur votre territoire, il est un peu délicat de se prononcer pour l'entrée dans l'OTAN. Donc c'est venu vers 92-93, la volonté polonaise, ça rentre dans les documents vers l'automne 92 en fait, de vouloir rentrer dans l'OTAN. Pourquoi ? Parce qu'on a une aggravation en fait, une détérioration du paysage sécuritaire européen, c'est notamment les guerres d'ex-Yougoslavie. Les guerres d'ex-Yougoslavie, pour les pays d'Europe centrale, ça montre en fait que les Américains en fait, restent le seul acteur sécuritaire important à l'échelle mondiale, parce que les Européens sont impuissants, les Européens, je parle des Occidentaux, sont impuissants à stopper en fait, le conflit en ex-Yougoslavie. Et donc, face à ce qui est considéré comme une impuissance des Occidentaux, en fait, les pays d'Europe centrale vont vouloir se tourner vers ce qu'ils estiment être la seule alliance sécuritaire valable, c'est-à-dire l'OTAN.
Donc les pays d'Europe centrale, alors ça, disons, c'est les trois sur lesquels vous avez notamment fait votre thèse, c'est... Ouais. Pologne, République tchèque, Hongrie.
Mais le même raisonnement pourrait valoir pour les Baltes. La Slovaquie, je laisse de côté, parce que dans les années 90, c'est un régime autoritaire. Mais voilà, pour eux, c'est finalement l'OTAN, parce que l'OTAN aussi garantit le lien avec les États-Unis. Après, pour la Pologne, le lien avec les États-Unis est aussi un peu particulier. Pas parce qu'il y a une sorte d'atlantisme fantasmé et millénaire, mais parce que quand il y a eu la réunification allemande, le chancelier Kohl, qui dirigeait à ce moment-là l'Allemagne, a laissé planer un peu de doute sur la reconnaissance de la ligne Oder-Neisse, donc sur la frontière en fait germano-polonaise. Et à ce moment-là...
Ce qui est un sujet de conflit depuis seulement un bon millénaire, quoi.
Voilà. Il n'était pas très clair sur sa volonté de reconnaître la ligne Oder-Neisse, et c'est Washington qui a fait pression sur les Allemands, sur le gouvernement allemand, et donc c'est pour ça que pour les Polonais aussi, à ce moment-là, il y a eu cette idée que les garants de la sécurité en Europe, ce sont les Américains, l'OTAN et l'alliance qui permet le lien avec les États-Unis. Et donc ça vient 92-93.
Et alors du coup, comment ça se fait ? C'est-à-dire à partir du moment où ça s'enclenche, qu'est-ce qui leur est demandé ? Puisque bon, on peut rappeler, d'ailleurs on en est encore toujours un peu là, mais enfin, c'était quand même une armée parasoviétique, quoi, avec des équipements soviétiques, des doctrines soviétiques, une formation soviétique. Voilà, c'est pas une évidence que ça va être possible d'entrer dans l'OTAN ni aujourd'hui ni demain. Donc comment, une fois que le souhait est exprimé, une fois qu'il y a une compatibilité possible, quelles ont été les étapes à franchir ?
Alors, il faut dire que le processus dans les années 90 pour rentrer dans l'OTAN, c'est une sorte, moi j'ai appelé ça dans ma thèse, un bricolage institutionnel. Pourquoi ? Parce que durant la guerre froide, en fait, pour rentrer dans l'OTAN, c'était des négociations à porte ferme, derrière des portes fermées, entre les membres de l'OTAN. Il n'y avait pas vraiment de stratégie de préadhésion, de programme de préadhésion, de préparation vraiment extrêmement cadrée pour rentrer. Et dans les années 90, l'OTAN, en fait, essaye de réinventer son processus d'élargissement en se disant qu'elle doit renouer avec ses idéaux fondateurs et donc les valeurs libérales, démocratiques et tout ça. Qu'elle n'avait jamais vraiment trop respecté. Le Portugal de Salazar est un membre fondateur. On peut parler de la Grèce des colonels, on peut parler de la Turquie. Enfin voilà, bon bref. Tout ça, c'était des membres de l'OTAN.
C'est toujours bien de rappeler des principes, même quand ils ne sont pas respectés.
Voilà, le seul cas en fait, où ils n'ont pas réussi à faire rentrer un pays autoritaire, c'est l'Espagne. Parce que là, il y a vraiment eu trop d'opposition au sein de l'OTAN. Et en fait, l'Espagne était considérée comme un régime vraiment fasciste, à l'instar d'Hitler ou Mussolini. Et que donc, si l'Espagne de Franco rentrait dans l'OTAN, elle pervertirait fondamentalement l'Alliance. Mais bon, le Portugal de Salazar, par exemple, déjà, ça posait moins de problèmes. Donc renouer avec ses idéaux fondateurs et réinventer un processus d'élargissement. Et donc là, en 1995, l'OTAN sort un document qui s'appelle l'étude sur l'élargissement de l'OTAN, où elle énonce un peu tout ce qu'un pays doit faire s'il veut, de façon générale, tout ce qu'un pays doit faire s'il veut rentrer dans l'Alliance. Donc voilà, respect des valeurs libérales et démocratiques, de l'état de droit, respect de la charte de l'ONU, ce genre de choses, être interopérable. Il y a beaucoup de choses, mais... Alors, concernant les pays d'Europe centrale, donc la Pologne, On considère que son armée de terre, par exemple, est une armée de terre tout à fait correcte et efficace, efficiente, et qu'il n'y a pas vraiment besoin de la moderniser. Ce qui est demandé, c'est de changer tout ce qui est système de communication, par exemple, dans l'armée de terre, mais en soi, les T-72, on peut les garder. Et la Pologne va moderniser ses T-72, et ça va devenir ce qu'on appelle des PT-91. Donc voilà, il n'y a pas de problème, là, il n'y a pas de demande non plus d'achat de matériel. En fait, dans cette décennie-là, l'OTAN ne demande pas spécifiquement en fait, à ces pays-là d'acheter du matériel, et ne leur demande surtout pas d'acheter du matériel occidental qui serait trop cher en fait pour leur budget. Donc il faut faire avec ce qu'on a et moderniser ce qu'on a. Donc on va moderniser des T-72, on va moderniser des Sukhoi, on va moderniser des MiG, hein, l'aviation de chasse polonaise, hein, jusque dans les années 2010, il y a des Sukhoi et des MiG. Ce qu'on va leur demander par contre de faire aussi, c'est de savoir dans quoi ils veulent se spécialiser. Il y a un général de l'OTAN, quand il va faire ses visites de contrôle, il va demander, il va leur dire en fait, vous devez savoir si vous voulez jouer au golf ou au hockey. Pourquoi ? Parce qu'on sait que, en gros, il n'y a que 3 pays qui sont capables d'avoir un équipement correct dans tous les domaines. On estime que c'est la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne à cette époque-là. Et on ne demande pas du
peut-être
tout.
Peut-être pas dans cet ordre-là.
Voilà, mais à cette époque-là, en fait, c'est ces 3 pays. Et, en fait, que, selon l'OTAN, il y a déjà 3 classes en fait d'alliés selon les niveaux d'équipement, et donc en fait les pays d'Europe centrale, eh ben voilà, on sait qu'ils ne seront pas dans le club dans le premier niveau, ce club des 3, et qu'ils seront peut-être dans le club à la 3e place ou à la 4e place pour la République tchèque et la Hongrie. Alors la Pologne, donc on lui demande ça, on lui demande de préparer aussi des bases pour pouvoir voilà accueillir éventuellement des équipements otaniens, des exercices otaniens, ce genre de choses. Et ce qu'il faut adapter aussi, c'est tout le corpus législatif, parce qu'il faut l'adapter à l'envoi de troupes, au passage de troupes, à la tenue d'exercices multinationaux sur le territoire. Donc il y a tout un travail aussi qui est fait comme ça. Ce que va demander l'OTAN aussi, mais dans le cas de la Pologne, ça pose absolument aucun problème, c'est d'avoir une population qui est favorable à l'adhésion. Ça va être, dans le cas des deux autres pays, c'est un peu plus délicat, notamment République tchèque. Dans le cas de la Pologne, l'adhésion n'a jamais posé problème à la population. En fait, l'OTAN estime qu'il faut quand même y avoir une sorte d'engouement populaire pour cette adhésion à l'OTAN, et que ça serait très délicat de faire adhérer à un pays où il y aurait par exemple que 20 ou 30% de la population qui serait favorable à l'entrée dans l'OTAN. Et quand les équipes de l'OTAN, le secrétariat aux affaires politiques va rencontrer les décideurs dans ces pays-là, bien, ils demandent toujours à avoir des sondages. Où en est l'opinion publique ? Quels sont les sondages que vous pouvez nous fournir et tout ça ? Après, à ce moment-là, on n'a pas non plus une supervision extrêmement précise. On a des domaines de discussion, l'interopérabilité, la création de plans civils de défense, l'opinion publique, le budget et la législation. Mais le programme qui vraiment supervise de façon extrêmement étroite l'adhésion à l'OTAN, il est créé après. Il est créé en 1999, c'est le plan d'action pour l'adhésion. Et c'est en fait l'expérience de cet élargissement-là, qui est un peu un bricolage institutionnel, qui va donner naissance au plan d'action pour l'adhésion, qui depuis régit toutes les adhésions de l'OTAN, et qui est un programme beaucoup plus strict, avec des feedbacks annuels, des évaluations, ce genre. Voilà. Mais là, on n'est pas du tout encore dans ce contexte-là. Et est-ce qu'on veut...
Et donc, au moment de l'adhésion, donc, est-ce que c'est rempli ? Est-ce que, alors, même s'il y a un côté un peu vague, mais est-ce que bon, on les fait adhérer et à la fin, on se dit bon, bah, ça finira par converger de toute façon ? Ou est-ce qu'il y a quand même un niveau satisfaisant sur tous ces points-là au moment de l'adhésion ?
Alors, aucun des 3 pays qui adhèrent à ce moment-là, dont la Pologne, donc, n'a rempli toutes les tâches qui ont été fixées par l'OTAN. Alors, ce qu'on se dit, c'est que de toute façon, ils vont quand même avoir des domaines de spécialisation.
À ce moment-là, c'est en 99.
99. Aucun des 3 pays, en fait, n'a rempli toutes les tâches qui ont été demandées par l'OTAN. Ce qu'on se dit au sein de l'OTAN, c'est que le processus a trop duré. Trop duré, ça. Voilà, c'est une évaluation subjective et politique. On se dit que le process a trop duré, qu'il faut les faire rentrer quand même, et que de toute façon il y aura une convergence à terme, qu'aucun des pays ne sera vraiment un free rider parce qu'ils auront tous quand même des domaines de compétences.
Free rider, c'est la hantise, enfin, qui est devenue beaucoup plus la hantise depuis, notamment des Américains, c'est la théorie du passager clandestin. C'est l'idée qu'ils bénéficieraient de la garantie de sécurité sans fournir leur part du travail.
Voilà. Et en fait, là, pour éviter en fait d'être un consommateur de sécurité, pour éviter ce free riding, en fait, chaque pays va essayer d'avoir une sorte de spécialisation. Hein, c'est-à-dire que les Tchèques, par exemple, vont être spécialisés dans le bactériologique, le chimique, ce genre de choses. Les Hongrois, une spécialisation en médecine militaire, par exemple. Hein, voilà. pour éviter justement ce free riding, essayer aussi de participer aux missions le plus possible de l'OTAN, que ce soit sous mandat ONU par exemple, en ex-Yougoslavie. Par exemple, les Hongrois vont prêter une base, la base de Tapa, pour faire une tête de pont en fait pour les missions en ex-Yougoslavie, et cela même avant leur entrée en 99. Donc voilà, essayer comme ça de ne pas être un free, de pas être des free riders. Et donc, c'est aussi une logique politique, en fait, dans cette adhésion de ces pays-là à l'OTAN. Logique politique aussi parce qu'il y a une sorte de sentiment de culpabilité aussi dans une partie de l'élite occidentale. Les personnes qui sont au pouvoir à ce moment-là, je pense notamment aux États-Unis, on a Madeleine Albright, secrétaire d'État de Bill Clinton. Madeleine Albright, en fait, elle est d'origine tchèque, tchécoslovaque. Elle est née là-bas. Et elle avait une sorte quand même de sentiment de culpabilité parce qu'elle, sa famille avait fui. Avait fui donc le communisme, mais voilà, et il y avait le sentiment d'avoir abandonné en fait les compatriotes derrière le rideau de fer, et donc il fallait réparer une sorte d'erreur historique en les faisant rentrer, et que donc on n'allait pas les embêter pendant 20 ans à les préparer en fait.
Et alors qu'est-ce que ça donne à ce moment-là ? Donc bon, évidemment ils arrivent en 99, donc dans la décennie suivante il se passe vaguement des choses pour l'Alliance, en tout cas pour les États-Unis et leurs alliés, même si c'est pas forcément dans le cadre de l'Alliance. Dans quelle mesure est-ce qu'ils remplissent leur part ? Dans quelle mesure est-ce qu'ils s'investissent dans toutes les opérations extérieures américaines ?
En fait, à partir du moment où ils rentrent dans l'OTAN et jusqu'au milieu des années 2000, en fait, 2000, voilà, on rentre dans une période vraiment d'atlantisme triomphant, je dirais. Atlantisme triomphant qui se voit déjà dans les achats de matériel, puisque c'est le moment où justement les ex-communistes au pouvoir, hein, le président Kwasniewski, achètent des F-16. Au début, on en achète 16 et ça va monter jusqu'à 48. Ils achètent des F-16 et ils préfèrent ça aux Gripen suédois et aux Mirage français. C'est le moment aussi où les Polonais vont aller en Irak. Et en Irak, ils vont occuper un rôle extrêmement important puisqu'ils vont en fait commander toute la zone de Babylone. Ils vont avoir sous leur commandement une quinzaine de pays, un contingent de 9500 soldats, dont 2300 Polonais. Ils vont rester en mission vraiment opérationnelle sur le terrain de 2003 à 2008 en Irak. Après, ça va être une mission beaucoup plus légère, une mission de formation. Alors il faut savoir que cet engagement en Irak, il n'est pas toujours extrêmement bien compris de la part de la population. Déjà, ça coûte cher. La première année d'engagement en Irak, c'est 200 millions de dollars. Donc là, concrètement, pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Il y a peut-être d'autres problèmes plus importants au niveau économique, social. Hein. La Pologne est quand même aussi un pays qui doit se reconstruire. On parle que de l'armée, mais qui doit reconstruire son économie, qui doit reconstruire tout son système social, sanitaire. Enfin, voilà, beaucoup de choses, en fait, doivent être faites. Et donc, c'est jugé comme un investissement qui n'est pas extrêmement intéressant. Et puis, en fait, la Pologne va aussi vite déchanter. Et cet atlantisme, justement, va quand même un peu diminuer, être nuancé, parce que en allant en Irak aussi, il y avait l'espoir que la Pologne participerait à la reconstruction du pays et qu'il y aura des contrats pour les entreprises polonaises. Il s'avère que il y en aura quasiment pas, il y en aura trop peu en tout cas, et donc ça va entraîner en fait un changement quand même dans la politique étrangère et de sécurité, avec un basculement un peu plus important vers l'Union européenne. Et ça va être notamment le cas sous le mandat de Donald Tusk, hein, quand il est élu Premier ministre en 2007. On va avoir ce basculement à la fois plus vers l'Union européenne et aussi un changement de la façon de considérer l'armée, puisqu'on va basculer vers une armée de professionnels. En fait.
Ben, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut peut-être dire un mot de cette relation justement entre la population et son armée, parce qu'on mesure, c'est pas forcément évident. Alors il y a un long passé militaire pour la Pologne, mais qui est pas forcément. Voilà, qu'il y a des épisodes plus ou moins victorieux, disons, au fil de la longue histoire polonaise, rien qu'à l'échelle du XXe siècle. Quoi. C'est compliqué, pris entre l'Allemagne, l'URSS. Voilà, une armée qui était aussi un des bras armés de l'URSS, et puis ensuite, avec la chute du bloc soviétique, évidemment, ça change, mais on mesure qu'il y a une image de l'armée à reconfigurer, et une relation, en tout cas, de la population à son armée, à réinventer un peu à partir de la décennie 90, quoi.
Alors, en fait, l'armée, même si son histoire n'est pas constituée uniquement d'épisodes glorieux, hein, on va dire ça comme ça, est quand même une institution qui est extrêmement populaire et prestigieuse. Hein. Il y a des enquêtes d'opinion qui sont faites régulièrement depuis le début des années 90, et en fait, parmi toutes les institutions, quand on compare gouvernement, parlement, ou police et armée, l'armée, il y a toujours environ 70% d'opinion favorable, alors que par exemple, le parlement et la police, on est plutôt aux alentours de 50%. Donc c'est une institution qui est respectée, qui est valorisée, Et ça peut surprendre justement parce que c'est quand même une armée qui a participé justement pendant la période soviétique à des épisodes assez sombres de répression, 56-70, l'état de guerre. Donc voilà, 56-70, c'est des révoltes populaires qui sont écrasées. Mais c'est aussi une armée qui a construit une image positive dans des moments en fait héroïques. Moment héroïque, par exemple, c'est le miracle de la Vistule. Hein, c'est quand les troupes polonaises en fait arrêtent l'armée rouge au début des années 20, 1920. L'armée rouge, sinon, qui justement avait pour projet de déferler sur toute l'Europe pour instaurer partout des régimes communistes. Donc là, le miracle de la Vistule, c'est voilà, la Pologne s'est dressée et a empêché finalement cette bolchevisation de l'Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort dans la mystique autour de l'armée. Il y a des batailles aussi de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Monte Cassino, quand l'armée polonaise en fait participe au débarquement en Italie et participe à cette bataille de Monte Cassino. Il y a des chansons patriotiques autour de Monte Cassino, notamment. Et donc, ce lien en fait assez profond entre
plus
l'armée.
Plus de chansons probablement sur la deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale que sur la première.
Sans doute. Ouais. Après, la première partie de la Seconde Guerre, enfin voilà, 39, la campagne de septembre, ils se sont pris en tenaille, ils le savaient pas en fait finalement. Donc, et puis l'armée était très peu modernisée aussi, il faut le dire à ce moment-là. Donc voilà. Mais il y a un lien en fait assez fort qui s'est créé entre l'armée et la société. C'est un lien qui date en fait de la fin du XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe siècle, c'est le moment où la Pologne disparaît de la carte en fait, et où on a une insurrection à ce moment-là qui se met en place, menée par un héros national qui s'appelle Kosciuszko. Et Kosciuszko en fait, il promet une réforme agraire à tous les paysans qui s'engageraient dans son armée, pour sauver justement l'indépendance de la Pologne. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un lien qui se crée entre l'armée et la société. Et ce qu'il y a aussi, c'est l'image aussi dans l'imaginaire, dans la mythologie autour de cette armée, l'image de celui qu'on appelle le Naczelny Wódz, qui est en fait le commandant suprême qui va venir sauver le pays en cas de crise majeure. Donc il y a eu Kosciuszko, il y a eu Pilsudski, donc celui du le général polonais qui a restauré l'indépendance de la Pologne à l'issue de la Première Guerre mondiale et qui a permis le miracle de la Vistule et qui va ensuite devenir une sorte de dictateur dans les années voilà 25-35. Donc voilà, il y a cette image là de ce commandant suprême qui va, et d'ailleurs le général Jaruzelski, quand il instaure l'état de guerre et la loi martiale, il veut se placer dans cette logique là. Du commandant qui va sauver le pays. Alors là, lui, il prétend sauver le pays de quoi ? D'une invasion de l'armée rouge, en fait, à ce moment-là, des troupes du pacte de Varsovie. Et en fait, il y a un grand historien britannique qui travaille sur la Pologne, qui s'appelle Norman Davies, et qui dit qu'en fait, il faut faire la distinction entre l'armée en tant qu'institution, qui a pu donc être au service de l'URSS, qui a pu connaître des grandes défaites, ce genre de choses, et le soldat, en fait, qui, par son héroïsme, qui par une sorte de bravoure individuelle, en fait, va racheter la défaite de l'armée et va permettre, en fait, la gloire, d'une certaine façon, du pays. Et donc, y a des études aussi sociologiques qui sont menées sur, par exemple, l'entrée dans les académies militaires, ce genre de choses. Et il y avait des études qui montraient que pour une place dans une académie militaire, par exemple, il y avait au moins 15 candidats. Donc 15 candidats par place, ça montre quand même que ça reste une carrière qui est considérée comme prestigieuse. Pourquoi aussi ? Parce que emploi stable, salaire correct, ce qui permet d'obtenir une qualification, des avantages sociaux, ce genre de choses. Et donc en fait, c'est une carrière qui reste extrêmement intéressante, la carrière des armes, notamment pour beaucoup de jeunes, sauf pour les personnes qui sont vraiment extrêmement diplômées, là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais sinon, voilà, c'est une carrière aussi qui reste donc intéressante.
Et alors, quel type d'armée c'est ? Parce qu'on sait que bon, les armées du pacte de Varsovie, c'était quand même des armées assez massives qui reposaient essentiellement sur la conscription. On mesure qu'avec la convergence vers l'OTAN, c'est plutôt vers des armées professionnelles qu'on tend. Alors comment est-ce que ça se fait, ce passage ? Dans quelle mesure et sous quelle modalité, quoi ?
Alors, le passage à une armée professionnelle va se faire, en fait, sous le mandat donc de Donald Tusk. C'est Donald Tusk, en fait, qui a comme promesse électorale d'abolir le service militaire, qui était un service militaire de 9 mois. Au début des années 90, c'était 24 mois. Donc il avait été réduit à 9 mois parce que les appelés trouvaient que c'était beaucoup trop long. Il y avait dans les années 90 quelques problèmes de punition physique qui étaient appliqués aux plus récalcitrants. Donc il avait fallu remodeler un peu ce service militaire.
Et l'exemple donc, soviétique.
Voilà. Et ce qu'il fallait faire aussi, c'était pour rentrer dans le modèle OTAN, avoir beaucoup plus de sous-officiers. Puisque les armées soviétiques avaient beaucoup de soldats du rang et beaucoup d'officiers supérieurs, très peu de sous-off. Donc là, il fallait créer aussi un corps de sous-off. Et donc, avec les années 12, qu'on abolit ce service militaire. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de créer une armée moderne, une armée de spécialistes qui est capable de manier en fait des équipements technologiques. Et donc, on estime que ça, c'est plus une armée, voilà, avec des conscrits qui peut permettre ce genre de choses. À l'époque de Tusk, l'armée, elle fait environ 120 000 soldats. Donc, on était à 300 000 sous l'époque soviétique, on a 200 000 fin 90, et avec Tusk, on arrive à en gros 120 000 soldats, dont 30 000 réservistes. Donc, on a encore là une diminution. Du nombre de soldats. Et donc ça, ce mouvement vers la professionnalisation des armées, c'est quelque chose qu'on voit en fait dans tous les pays d'Europe centrale aussi. La Pologne y arrive plus tardivement puisqu'il y arrive en fait en 2009.
Ensuite, il y a évidemment, donc là on a en quelque sorte la lente décrue et puis la mutation de l'armée polonaise, mais voilà, le chapitre dans lequel on est aujourd'hui, c'est pas un chapitre qui commence avec l'invasion de l'Ukraine, c'est un chapitre qui commence un peu plus loin pour bien en saisir les tenants et les aboutissants. C'est peut-être le grand événement politique de la dernière décennie en Pologne, c'est la prise du pouvoir, enfin l'arrivée au pouvoir du PiS. Alors d'abord peut-être pour rappeler les choses et pour les recadrer, comment est-ce qu'on caractériserait ce qu'est le PiS ? Donc c'est pas un parti qui est certainement anti-communiste, qui cherche à traquer les rémanences du communisme dans la société polonaise. On pourrait le qualifier d'autoritaire, il y en a qui le qualifient de proto-fasciste, parce qu'il y a ils sont quand même très très à droite et avec des appels à un certain nombre de symboles et de valeurs qui peuvent faire penser à certains régimes, disons, d'il y a quelques décennies. Donc voilà, comment est-ce qu'on pourrait caractériser ce que c'est que ce parti et ce qu'est leur projet en quelque sorte pour la société et pour la Pologne, quoi.
Alors il y a un débat, il y a beaucoup de termes, certains parlent de démocratie autoritaire aussi, parce qu'on a des espaces démocratiques qui sont conservés, par exemple, en Pologne, toutes les grandes villes sont gouvernées par l'opposition. Donc le PiS n'a pas une main mise sur l'ensemble du paysage politique. En fait, c'est un projet conservateur. Un projet qui vise à réduire, par exemple, le rôle et les droits des femmes. On pense à toutes les attaques contre l'avortement, par exemple. Un projet aussi qui se veut social, dans le sens où, mais qui n'est pas un projet d'État-providence, dans le sens où il y a quand même des transferts d'argent qui sont faits. Par exemple, il y a un programme d'allocation familiale extrêmement ambitieux qui s'appelle 500+, qui fait qu'à chaque enfant qu'on a, on reçoit 500 zlotys. Donc voilà, vous avez deux enfants, ça fait 1000. Enfin voilà, donc c'est un programme quand même d'allocation familiale qui est extrêmement ambitieux, mais qui vise à enrayer en fait la baisse de la natalité qui est catastrophique en Pologne. On a comme ça des éléments sociaux. On a aussi des éléments extrêmement importants de politique historique. Politique historique qui vise en fait à promouvoir un récit uniquement héroïque et positif de la Pologne. C'est notamment.
Il y a quelques années, il y avait ces trucs absolument hallucinants des pubs YouTube sur lesquels on tombait, où c'était vraiment financé par une fondation ou par le gouvernement polonais, disant que la Shoah, la Pologne n'avait rien à faire dans tout voilà, ça, c'est, etc. Les Polonais ont été victimes de la Shoah intégralement. Enfin, ils ont aussi été victimes, mais bon,
de nier la participation en fait des Polonais à la Shoah. Alors là où ils sont extrêmement sensibles, c'est par exemple si on parle de la participation de l'État polonais à la Shoah, l'État polonais étant le gouvernement en exil de Londres durant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas possible. L'État polonais n'a pas en soi participé à la Shoah. Il n'y a pas de gouvernement de collaboration en fait en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les Polonais ont effectivement pu dénoncer, participer, enfin voilà, dénoncer des Juifs, évidemment. Et donc il y a un récit qui se veut uniquement positif et on peut faire des mesures vexatoires, tenter de faire des procès en fait à des historiens aussi qui expliqueraient tout simplement la réalité du fait qu'en Polonais, effectivement, on a des justes qui sont reconnus par Yad Vashem, le mémorial de Yad Vashem, mais on a aussi voilà des personnes qui ont participé à la Shoah. Donc voilà, ce récit en fait qui se veut un récit uniquement héroïque et c'est ça qui est un élément extrêmement important justement de cette politique du PiS et qui lui vaut d'ailleurs des problèmes parfois en politique étrangère. Toutes ces lois mémorielles, toute cette volonté en fait de nier le rôle des Polonais dans la Shoah peut valoir des tensions avec Israël, mais aussi avec les États-Unis par exemple, qui estiment que le révisionnisme n'est pas une position possible. Donc voilà, un gouvernement conservateur, un gouvernement qui s'attaque aussi à l'état de droit, toute la réforme qu'il y a autour de la justice et qui vaut à la Pologne des problèmes assez importants avec la Commission européenne. On va pas revenir dessus, mais voilà, il y a quand même une attaque en fait contre les fondements de l'État de droit, contre les valeurs libérales, mais il n'y a pas d'emprise totale du PiS sur la société, étant donné justement qu'on a des médias qui restent quand même d'opposition et libres, notamment des médias privés, même si le PiS attaque certains, évidemment. On a une opposition politique qui est capable de gagner des élections. Donc, comme je dis, toutes les grandes villes et la capitale Varsovie sont gouvernées par l'opposition. Donc c'est pour ça que certains emploient le terme, par exemple, de démocratie autoritaire. Voilà.
Et alors comment est-ce que tout ça s'applique à la sphère militaire, à la sphère... parce que, voilà, ils ont aussi des projets pour l'armée. Donc comment est-ce que tout ça se met en place ?
Alors, dans un premier temps, quand le PiS arrive au pouvoir en 2015, puisqu'ils sont là depuis 2015, hein, ils ont déjà deux mandats derrière eux, on a une fragilisation de l'armée et on a une dégradation du rôle international de la Pologne. Il y a un officier qui était posté auprès de l'OTAN et qui a dit, avant que le PiS arrive au pouvoir, on avait, au sein de l'OTAN, on avait un fauteuil près de la cheminée, donc en fait on faisait partie, voilà, c'était cosy, on faisait partie de ce qui comptait, et maintenant que le PiS arrive au pouvoir, on est quelque part debout près de la porte, voilà, donc là, pour un peu donner une image sur la dégradation de cette situation de la Pologne. Alors, en fait, pourquoi on a une dégradation de l'image de la Pologne ? En fait, il y a beaucoup de tensions qui vont apparaître dès l'arrivée du PiS au pouvoir. Pourquoi ? Parce que déjà, on a des retards dans la modernisation de l'armée. L'armée polonaise, dans les années 2010, en fait, des investissements devraient être faits dans l'aviation, dans la marine. La marine, c'est un sous-investissement chronique, en fait, et ça perdure. Sous-investissement chronique dans la marine, mais aussi dans l'aviation et tout ça. Et on a des retards dans cette politique de modernisation. Par exemple, il y a du matériel qui devrait être livré, des léopards qui devaient être livrés depuis 2018, on n'en fait la commande qu'en 2019, voilà ce genre de choses. La modernisation aussi de l'aviation qui est retardée, on lance des appels d'offres, mais ça met du temps à débloquer des fonds. Donc le gouvernement, en fait, ne considère pas...
On peut mentionner que la France a un souvenir de négociations autour des hélicoptères Caracal aussi.
Voilà, alors les Caracal...
C'est pas bien terminé.
Les Caracal, effectivement, dès que le PiS arrive au pouvoir, les Caracal avaient été négociés en fait par le précédent gouvernement de Donald Tusk. Dès que le PiS arrive au pouvoir, il annule les Caracal et il préfère donc les Black Hawks. Les Black Hawks, l'avantage en fait pour la Pologne, c'est qu'ils sont fabriqués en Pologne. Lockheed Martin a une usine en Pologne et donc ça permet de faire travailler l'industrie polonaise. Voilà,
ils ont tout à fait le droit de choisir des matériels américains, et d'ailleurs ils l'ont fait de manière répétée. C'est juste que à cette époque-là, c'est la manière dont ça avait été fait avait été très modérément goûté à Paris notamment.
Oui, évidemment, et ça avait créé des tensions entre les deux. Et cela dit, quand ils ont choisi les Black Hawks, il y avait aussi des tensions parce que les premières unités devaient être livrées en 2018, elles ne sont livrées qu'en 2019 pour les forces spéciales, donc il y a eu des tensions aussi entre le gouvernement polonais et américain. américains suite à la négociation de, enfin, et à l'achat de ces hélicoptères.
C'est un peu le thème depuis que le PC est au pouvoir, c'est les tensions avec le gouvernement, voilà. Pour mener avec toutes sortes de gens. Non, mais, et par ailleurs, il y a une sorte de blocage institutionnel qui est intéressant, puisqu'il y a un président qui est André Juda, et notamment, il y a, ce que vous racontez, c'est qu'il y a, enfin, ça provoque des blocages et des stagnations, notamment dans les dans les promotions des officiers généraux, puisque les deux sont pas d'accord.
En fait, Duda, enfin le président Duda, donc qui est au pouvoir depuis depuis que le PiS est revenu en Pologne, avait des tensions avec celui qui était ministre de la Défense de 2015 à 2017, c'est-à-dire Antoni Macierewicz. Macierewicz, c'est un personnage assez particulier. C'est quelqu'un qui en fait croit, par exemple, que la catastrophe de Smolensk, donc ce crash de l'avion présidentiel polonais en 2010, où le couple présidentiel décède, toute une partie de la chancellerie, énormément aussi de hauts gradés. Voilà, c'était un avion en fait qui allait en Russie pour commémorer les massacres de Katyn. Donc Katyn, c'est un massacre d'une partie de l'élite polonaise par le NKVD, hein, dans donc ces forêts autour de Smolensk. L'URSS avait nié pendant toute la jusqu'en 91 en fait que c'était un massacre commis par le NKVD. Donc ils allaient en Russie commémorer ce massacre. Et donc il y a cet avion présidentiel qui crache en fait à cause de conditions météorologiques catastrophiques. Et donc Macierewicz, il a créé au sein du ministère de la Défense, quand il revient au pouvoir donc en 2015, une commission qu'on appelle la sous-commission de Smolensk, qui est chargée de prouver que cette catastrophe aérienne est un attentat commandité par les Russes. Donc voilà, c'est un personnage quand même qui est assez particulier, qui est très clivant même au sein de son parti, et qui d'ailleurs ne va rester au pouvoir que 2 ans, hein, ministre de la Défense de 2015 à 2017.
Il y a une autre histoire qui est marrante, c'est un jour il fait une descente dans un centre de l'OTAN qui est situé à Varsovie pour prendre des documents, pour saisir les coffres-forts.
Oui, il fait une descente, alors c'est à Cracovie, c'est un centre qui devait être chargé du contre-espionnage et en fait c'est un centre qui n'a pas été accrédité finalement par l'OTAN et donc il fait une descente de nuit pour saisir des documents qui sont dans des coffres-forts. On ne sait pas exactement ce qu'il a saisi ni quoi que ce soit, mais voilà. Bon, il y a une enquête qui a été faite par un journaliste du quotidien d'opposition libéral Gazeta Wyborcza, lui s'appelle Macierewicz et ses secrets, il n'est pas traduit je crois en français, et qui explique tous les liens un peu étranges qu'il a avec des mafieux, avec le GRU russe, enfin voilà, c'est un personnage vraiment extrêmement controversé et très particulier, donc c'est lui qui se retrouve ministre de la Défense de 2015 à 2017, ce qui est un choix quand même un peu
audacieux,
voilà, pour un parti qui se prétend quand même enfin, très sensible à la menace russe. Voilà. Et donc il y a des tensions entre lui et entre le président Duda et le ministre Macierewicz qui empêchent la nomination de généraux. Alors pourquoi ça pose problème la nomination de généraux? Parce qu'en fait, quand le PiS arrive au pouvoir, et en fait, après 2016, en fait, après le sommet de l'OTAN qui se tient à Varsovie, qui est un sommet extrêmement important, on a énormément de démissions et de limogeages. C'est-à-dire qu'on a 40 généraux, 300 officiers supérieurs en gros, qui soit démissionnent, soit sont limogés. On a parmi eux le chef de l'état-major des armées, on a le chef de l'inspectorat des forces armées, on a le commandant le Natchelnik, en fait, qui est celui qui commande les troupes polonaises en cas d'opération militaire, on a le chef des forces spéciales. On a aussi l'ambassadeur polonais à l'OTAN qui est rappelé. On a au sein de la marine, on a l'adjoint du chef de l'état-major qui est versé dans la réserve. Le chef d'état-major de la marine nationale est également démis de ses fonctions. Donc voilà, on a en gros...
On pourrait appeler ça une purge, quoi.
Voilà. Alors non, parce que parfois, c'est des démissions. C'est pas nécessairement des purges, ça peut être parfois des démissions. Alors par exemple, le chef de la marine nationale, il est démis parce qu'il critiquait les sous-investissements chroniques dans la marine. Donc on a un problème énorme d'encadrement, et à la suite de ces démissions, en 2018, il y a un calcul...
Pourquoi ils démissionnent et pourquoi ils sont démis, c'est quoi la ligne d'opposition, quoi ? C'est juste une question de personne, c'est une question de génération, c'est une question de fidélité, ou est-ce qu'il y a une question de principe ?
C'est question politique, en fait. C'est des questions principalement politiques, c'est-à-dire que ces personnes-là ne veulent pas servir aussi sous un ministre de la Défense qui est Antoni Macierewicz, pour les raisons qu'on a expliquées. C'est des personnes qui ne veulent pas servir le PiS en général, parce qu'elles ne veulent pas être sous les ordres d'un gouvernement qui a des pratiques autoritaires, comme on l'a vu sur l'état de droit, la justice. Hein, ça commence quand même très tôt, les attaques contre le système judiciaire en Pologne. Hein, dès que le PiS arrive au pouvoir, on commence à avoir des attaques. Et en fait, ils sont restés en fonction, par devoir, en fait, jusqu'au sommet de l'OTAN à Varsovie, puisque c'est ce sommet en fait à Varsovie en 2016 qui décide en fait de la mise en place de ces bataillons multinationaux dans les Baltes et en Pologne, donc la présence avancée renforcée. Donc par devoir, ils restent jusqu'au sommet et ensuite on a ces vagues de démission ou de limogeage. Aussi, ce qui pose problème au sein de l'armée à ce moment-là, c'est que le PiS crée une garde territoriale. une garde territoriale qu'on appelle la WOT, vote. Cette garde territoriale, en fait, quand elle est créée, il y a vraiment des interrogations. Alors pourquoi elle est créée? Est-ce que c'est une sorte de milice paramilitaire du PIS? C'est une garde qui est censée être la cinquième branche des forces armées. Alors les branches des forces armées en Pologne, c'est donc terre, mer, air, force spéciale, qui est la quatrième branche, et garde territoriale. Cette garde territoriale, elle devait compter 54 000 personnes en 2019. Alors actuellement, elle en a que 32 000, donc il y a quand même un problème de recrutement. Et en fait, on s'interroge pourquoi on crée cette garde. Donc cette garde, c'est quoi? Ils ont un entraînement initial de 16 jours, puis un entraînement mensuel. Ils sont censés aider l'armée en cas de catastrophe naturelle. Ils sont censés diffuser un enseignement patriotique. Mais quel enseignement patriotique, puisqu'on voit quand même ce que c'est le PIS. Ils sont censés aussi lutter contre la désinformation. Et ils aident aussi pour des tâches comme le contrôle des frontières. On se rappelle de la crise migratoire qu'il y a eu et qui a lieu toujours à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Donc là, par exemple, ces territoriaux ont été envoyés pour seconder l'armée. Le truc, c'est que cette garde territoriale, quand elle est créée, on octroie donc à sa création en 2017 880 millions de zlotys. Pour cette garde, juste pour le budget 2017. Actuellement, le budget de cette garde territoriale, c'est 1,4 milliard de zlotys. La marine, c'est 1 milliard. Donc la garde territoriale, en fait, reçoit plus d'argent que la marine, alors que la marine est toujours en sous-investissement chronique en Pologne. Donc ça aussi, ça crée des tensions, en fait. C'est déjà pourquoi on crée cette garde, à quoi ça sert concrètement? Est-ce que c'est une milice paramilitaire alors du PIS? À quoi ça sert concrètement? Et en plus, pourquoi autant d'argent Donc 1,4 milliard pour cette garde, 1 milliard pour la marine, 600 millions pour les forces spéciales. Donc il y a quand même une interrogation là-dessus, et certains estiment que ces retards de modernisation, notamment qu'il y a eu dans l'armée, et qui explique aussi ces retards de modernisation, qui explique aussi pourquoi on a ces démissions, eh bien, sont dus à la création en fait de cette garde territoriale. En fait.
Mais bon, ça c'est une idée qui paraissait peut-être un peu bizarre à l'époque. Elle apparaît peut-être un peu moins bizarre aujourd'hui. Par exemple, à la lumière de l'Ukraine et de la résilience qu'il y a eu, notamment du fait de ces bataillons territoriaux qu'il y a eu partout sur le territoire ukrainien. Je veux dire, ça avait l'air d'une idée un peu loufoque probablement à la fin de la décennie 2010. Aujourd'hui, les Ukrainiens ont montré que quand on est voisin de la Russie et qu'on a quelques inquiétudes, c'est pas forcément une si mauvaise idée que ça.
Le truc, c'est que, en fait, y a, pour la création de cette guerre territoriale, il y avait cette crainte parce qu'en fait, elle est créée par le PIS. Et que le PIS n'étant pas un parti extrêmement démocratique, respectueux de l'état de droit, des valeurs libérales et démocratiques, tout ça, il y avait une sorte de doute, en fait. Et certains estimaient que l'armée de l'air volait encore avec des Sukhoi et des MiG à la fin des années 2010. Est-ce qu'il aurait pas valu mieux consacrer entre 880 millions et 1,4 milliard de zlotys que courte par an cette garde territoriale à l'achat, en fait, de nouveaux avions de chasse? Bon, ça va être fait, ça va être ces fameux F-35, ce qui... Là, on va peut-être en parler, mais ça génère aussi des problèmes. Et donc tout ça, en fait, crée un contexte qui fragilise en fait l'armée. Avec la démission aussi de toute cette élite militaire, ce qu'il y a, c'est que c'est du personnel qui a été formé dans les académies aussi des pays de l'OTAN. Par exemple, les officiers supérieurs polonais peuvent faire une partie de leur formation en Grande-Bretagne, à Sandhurst, par exemple. Donc voilà, ces personnes-là démissionnent. C'est les personnes aussi qui ont été en Afghanistan, qui ont été en Irak, donc qui ont l'expérience de théâtre extérieur et qui ont l'expérience aussi de la coopération avec les autres pays membres de l'OTAN. Donc quand on se retrouve avec une armée où il manque, en gros, où il n'y a que 65 généraux, alors qu'il en faudrait une centaine pour encadrer correctement l'armée, qu'en plus ceux qui démissionnent sont ceux qui sont compétents, formés et qui ont l'habitude de travailler avec les alliés, ça pose aussi problème sur la capacité de cette armée à défendre le pays, à un moment justement, 2016 sommet de Varsovie, où la Pologne en fait demande de l'aide à ses alliés. Donc en interne on fragilise et en externe on demande de l'aide, il y a une sorte de...
Oui, c'est ce qu'on peut dire, c'est que c'est aussi le moment, ces années-là, c'est aussi le moment où il y a une demande, il y a un sujet, il y a un objet de débat qui est très fort avec les Américains, notamment à partir de l'arrivée de Donald Trump, qui est que les Polonais voudraient une base, une présence américaine en Pologne, qu'on a parfois appelé plus ou moins Fort Trump, parce que de toute évidence, je ne sais pas s'ils ont compris que ça pouvait plus le tenter s'ils l'appelaient comme ça, etc. Mais après, avec l'idée qu'on voit bien qu'ils étaient inquiets de ce qui se passait en Ukraine, et que l'idée, c'était une sorte de garantie. S'il y avait vraiment des soldats américains qui gardaient la frontière ou pas loin, ça pouvait fonctionner comme une garantie territoriale vis-à-vis de la Russie.
Ouais, en fait, le Fort Trump, ça a été réellement proposé par le président Duda. C'est un nom qu'ils ont... qu'ils ont vraiment mis sur la table. En fait, ils craignent, en fait, pour certains, depuis la seconde guerre de Tchétchénie. Depuis la seconde guerre de Tchétchénie, depuis la Géorgie aussi en 2008, il y a une crainte, en fait, en Pologne, que la Russie a commencé à avoir de nouveau des visées impérialistes expansionnistes et que ça va se faire au détriment de tous ses voisins. Et depuis l'invasion de l'Ukraine de 2022, l'idée c'est que si l'Ukraine tombe, après ce sera les Baltes et ensuite la Pologne. Donc il y a vraiment une conscience assez aiguë en fait de la menace russe. Alors concernant le fameux Fort Trump, c'est une proposition qui a été faite. Alors au début, le PiS n'était pas hyper emballé par l'arrivée de Trump au pouvoir, hein, quand même. Ils ont estimé que les déclarations de Trump sur l'obsolescence de l'OTAN et tout ça, c'était pas extrêmement bienvenu. Et donc il y avait eu quand même s'ils l'ont félicité. Il y a eu quand même de la part du président polonais Duda et du ministre des Affaires étrangères de l'époque un petit alinéa, un petit post-scriptum en disant bon, rappelez-vous vos devoirs au sein de l'OTAN et que voilà, il y a eu des engagements qui étaient pris au sommet de Varsovie, il s'agit de les respecter quand même. Donc il y a eu une période, quand même une légère période de méfiance. Concernant le Fort Trump, donc Duda le voulait et le président Duda était prêt à mettre 2 milliards de dollars sur la table. Le premier ministre Morawiecki, il était prêt à mettre 2 milliards de zloty. C'est pas la même chose. Hein. 2 milliards de zloty, c'est 500 millions de dollars. Donc déjà, au sein du gouvernement polonais, ils n'étaient pas tout à fait sur la même ligne. Ça a été refusé par le Pentagone, cette idée de Fort Trump, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, avec le pivot en fait, sur l'Asie, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'intérêt d'investir dans un Fort Trump en Pologne. En plus, on pensait que les autres alliés d'Europe centrale ou les alliés européens tout court allaient trouver que ça allait être peut-être trop privilégier la Pologne, trop faire ressortir la Pologne, que ça allait froisser la Russie. Donc voilà, c'était le mode de réflexion de l'époque, évidemment.
Ça les aurait probablement français.
Oui, bah. Et puis c'était pas une priorité pour le Pentagone, en fait, d'investir en fait dans le dans un QG en fait comme ça en dur en Pologne. À l'époque, la priorité était plus ce qu'ils ont dit en tout cas aux Polonais, la priorité pour eux à ce moment-là était plus le cyber et la modernisation de leurs propres forces armées. À la place, on a eu un accord de coopération de défense entre les deux qui a été signé en juin 2019 et qui prévoit quand même l'installation d'une sorte de QG avancé de l'armée américaine à Poznan, donc dans l'est de la Pologne. Et qui prévoit aussi tout un travail sur la formation, l'entraînement et tout ça. Donc voilà ce qu'on a eu à la place, en fait, entre la Pologne et les États-Unis de Trump.
Alors ensuite, on arrive évidemment au chapitre suivant, qui est l'invasion de l'Ukraine, donc, dont on voit que c'était déjà un danger qui était quand même très présent pour les Polonais. Alors peut-être, comment est-ce que ça a été vécu en Pologne? Comment est-ce que ça a été vu? Est-ce que ça a été un petit... Ben, vous l'avez bien dit... on vous prévenait. Est-ce que ça a été... on va voir comment ils se débrouillent. Ou est-ce que ça a été tout de suite le soutien massif, franc et massif, l'idée qu'il faut tenir l'Ukraine parce que si l'Ukraine tombe, on est les suivants. C'est-à-dire, comment est-ce que cet événement majeur, ce séisme stratégique majeur, a été intégré dans l'équation stratégique polonaise, quoi?
Bah, y a eu un petit moment quand même pour les Polonais de « Ah, on vous l'avait bien dit, hein. ». On était des russophobes depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années, voire plus. Bon, on a peut-être raison quand même au final. C'était peut-être pas nécessaire de discuter avec le président Poutine. Il y a eu quand même quelques accrochages aussi d'ailleurs entre le gouvernement polonais et les chancelleries, parce que les Polonais estimaient que c'était plus la peine de discuter avec Poutine. Après les lignes rouges qui ont été révélées à l'automne-hiver 2021. Pour les Polonais, l'affaire était entendue. L'affaire était entendue, en fait, pour les Polonais depuis, Géorgie 2008, Ukraine 2014. Notamment, les Polonais estimaient que l'accord de partenariat qui lie l'OTAN à la Russie, qu'on appelle l'acte fondateur, était caduque, hein, en raison notamment des actions de la Russie. Alors après, pour la Pologne, il y a l'idée qu'il faut effectivement aider l'Ukraine, parce que si l'Ukraine tombe, comme j'ai dit, les Baltes tombent et la Pologne va être la suivante. Pas forcément à tomber, mais à être attaquée. Et donc il faut à la fois soutenir l'Ukraine massivement et il faut se réarmer massivement aussi. Alors pour la Pologne, il y a l'idée qu'on est à la fois un pays du flanc, hein, puisque quand même la Pologne a une frontière avec la Biélorussie, et donc la Biélorussie n'étant plus un État neutre, a retiré en fait de sa constitution le fait d'être un État qui n'aurait pas d'armes nucléaires sur son sol, ce genre de choses, il y a quand même une crainte aussi. La Biélorussie en fait n'est plus l'État tampon qu'on pensait qu'elle était. Donc un pays du flanc, un pays qui n'est pas doté non plus, qui n'a pas d'armes nucléaires, et donc n'étant pas doté, elle est obligée de compenser avec du conventionnel, massivement. L'idée qu'en fait, on est dans un contexte de crise majeure et qu'il faut se réarmer, pas en étant dans des programmes de développement qui prendront des décennies, mais en achetant sur étagère, pour que ça soit là, disponible extrêmement rapidement. Donc c'est ça qui guide un peu la Pologne.
Et on peut dire que pour l'aide, il y a une aide de plein de manières, mais qu'en gros, c'est grâce à la Pologne que l'Ukraine est restée en vie, parce que c'est évidemment le pont, c'est l'autoroute des armes, elle passe par la Pologne. Mais il y a aussi tous les équipements qu'ils ont donnés en propre, donc tous leurs équipements ex-soviétiques, que ce soit des chars ou des avions. Et enfin, il y a aussi la formation, et ça on en a beaucoup parlé, c'était plutôt vers les débuts de la guerre, quand il y avait de la formation très proche de la frontière dans les bases polonaises, qui étaient extrêmement proches de la frontière, et qu'on se demandait si les Russes n'allaient pas tenter d'attaquer ces bases-là. Donc voilà, c'est un peu les trois volets du soutien polonais à l'Ukraine dès le début, quoi.
Ouais, effectivement, ils ont donné beaucoup de matériel. Ils ont donné, en fait, du matériel qui est modernisé, puisque les Polonais avaient adapté, donc, comme on avait dit, aux normes OTAN, leur T-72, leur Sukhoi, leur MiG, tout ça. Donc c'est du matériel aussi qui est pas du matériel qui date d'avant 80, quoi. C'est du matériel qui reste modernisé, mais qui donc nécessite, en fait, pour la Pologne, de reconstituer elle-même ses stocks et son armée. Et en fait, la volonté d'opérer ce réarmement massif, il intervient en fait très rapidement après le début du conflit. En fait, quelques jours après le début du conflit, la Pologne achète à une firme polonaise des drones, hein, qu'on appelle Fly-Eye. Et en fait, on a une loi qui est passée, qu'on appelle la loi sur la défense de la nation. Et cette loi sur la défense de la nation prévoit donc 3% du PIB pour la défense, mais un fonds spécial en plus, qu'on appelle le fonds spécial de soutien aux forces armées, de 1%. Donc en tout, on a 4% du PIB qui est donné à la défense, ce qui est énorme. Et on a la mise en place aussi d'une agence de l'armement pour accélérer en fait les achats. Et donc là, c'est tous les achats qu'on connaît. Donc en avril, les Polonais ont commandé 250 Abrams, ils en ont commandé 110 autres en décembre. On a la commande... Ils ont demandé aux Américains 486 HIMARS. Les Américains ont refusé. L'armée américaine ne compte même pas elle-même autant d'HIMARS. Et c'est pas possible de faire une commande pareille. Bon, le département d'État américain a accepté la vente de plus d'une dizaine d'HIMARS déjà. Et en fait, étant donné...
Donc il en manque 390, à peu près.
Alors, ils en ont acheté plus de 200 déjà, un truc équivalent chez les Coréens. Il y a cette commande aussi totalement incroyable de 1000 chars K2 chez les Coréens, de 672 obusiers, un équivalent coréen en fait des Césars français, de 48 avions de chasse aussi chez les Coréens, alors que par ailleurs, ils sont aussi positionnés sur le programme des F-35 américains.
Ils sont censés en commander 32.
Voilà, donc on a aussi...
Je peux dire, à chaque fois une commande à plusieurs milliards d'euros.
Ah oui,
quoi.
Oui,
les Abrams, c'est 5 milliards d'euros, les F-35, c'est 5 milliards d'euros aussi. Enfin, voilà. Je veux dire, c'est des montants faramineux.
C'est le contrat coréen, il est au moins à 12 milliards d'euros avec du transfert de technologie. On a aussi un programme de système anti-aérien en partenariat avec une firme britannique MBDA. Donc là, on est sur quasiment du 2 milliards. Et on a aussi un achat d'hélicoptères Apache qui est prévu, qui a été annoncé en tout cas en septembre. Et puis là, en fin d'année 2022, on a annoncé des achats de Reaper, de Bayraktar, donc ces fameux drones turcs qui ont été si profitables aux Ukrainiens, et aussi de navires de reconnaissance à la firme Saab, donc un peu aussi quand même d'achats européens. Donc on est sur un programme extrêmement vaste, extrêmement diversifié aussi d'achats, mais qui en fait pose beaucoup de problèmes en fait. Il pose beaucoup de problèmes parce que déjà il y a le caractère très rapide des commandes. C'est-à-dire que, par exemple, pour la commande coréenne d'équivalent HIMARS, on fait un accord en octobre, on le valide en novembre. Donc il n'y a quasiment pas de délai de réflexion. On fait ça de façon extrêmement précipitée. Par ailleurs...
C'est-à-dire le cahier des charges, probablement qu'il est un peu expédié rapidement, etc. Enfin,
voilà, ça interroge quand même.
C'est-à-dire, si tous nos programmes d'armement, ça prend des années, c'est qu'il y a... Enfin, peut-être que c'est lent et qu'il y a des intermédiaires et qu'il y a du retard, mais c'est aussi... Il y a des raisons. Ça ne se fait pas sur un compte table, quoi.
Voilà, donc là, c'est... En un mois, on fait ça. L'industrie polonaise va très peu en profiter, l'industrie de défense polonaise, hein, qui existe, hein, qui est présente quand même. Par exemple, pour les Abrams, il n'y a pas de participation industrielle polonaise à ce contrat. Et là, en fait, c'est justifié par la nécessité d'avoir... le ministère de la Défense polonais justifie ça par la nécessité d'avoir du matériel extrêmement rapidement. Ce qui interroge aussi, c'est que... c'est donc la rapidité. Et en fait, l'idée que le PiS, en fait, si depuis son arrivée au pouvoir, donc en 2015, il avait mis en place le programme de modernisation qui était souhaité par les forces armées, il y avait beaucoup de rapports qui expliquaient qu'il faut investir dans ça, ça et ça, et bien en fait l'armée polonaise aurait pu atteindre le niveau qui est souhaité actuellement, ou quelque chose un peu d'équivalent, sans en fait faire appel à toutes ces commandes étrangères. Donc en fait, en faisant marcher l'industrie. Parce que par exemple, il y a un matériel, les obusiers coréens par exemple sont achetés, il y a 672 obusiers coréens qui sont achetés, alors que les Polonais savent en faire. C'est ce qu'on appelle les crabes, et les crabes sont utilisés actuellement en Ukraine. Donc ils prouvent leur utilité, leur efficacité en Ukraine. Bah non, parce que le ministre justifie en disant que l'industrie polonaise n'est pas capable d'en fournir suffisamment rapidement.
Et c'est intéressant, cette espèce de non-confiance, cette espèce de... Ouais, on a l'impression qu'ils battent en touche sur la souveraineté, sur l'autonomie stratégique, en fait, l'autonomie capacitaire et la capacité à...
Bah, c'est pour ça qu'en fait, c'est un programme qui est extrêmement critiqué, mais c'était déjà la critique qu'on entendait il y a quelques temps pour les F-35. C'est-à-dire que, par exemple, pour les F-16, les Polonais, maintenant, sont capables, en fait, de les entretenir, d'assurer la logistique, tout ça, ils ont les compétences, mais pas pour les F-35. Donc l'idée, c'est pourquoi acheter des F-35 qui vont rendre dépendants, en fait, vis-à-vis, bon, ok, d'un allié, mais qui vont quand même rendre dépendants, alors qu'on pourrait investir dans quelque chose que l'industrie polonaise serait capable d'entretenir. Donc voilà, il y a vraiment cette question et cette interrogation sur ce à la fois ce court-termisme et cette rapidité et ce fait de pas assurer en fait l'autonomie.
Ouais, c'est la ligne un peu fine entre l'urgence et la panique, quoi.
Ouais, voilà, un peu. Et l'interrogation qui est aussi, c'est que l'armée doit aussi augmenter donc en nombre d'hommes, puisque l'idée c'est de passer à 250 000 soldats professionnels et 50 000 dans la garde territoriale dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais
donc, revenir globalement au format soviétique, à l'époque du bloc de l'Est, quoi.
Quasiment
300 000 personnes.
Quasiment, ouais. Mais là aussi, il y a des interrogations parce que dans les programmes d'achat qui sont faits, on ne voit pas d'équipement en fait pour le soldat en tant qu'individu, en fait. On voit des chars, on voit des avions de chasse, et en fait, ce que les spécialistes en capacitaire expliquent, que moi je ne suis pas, c'est qu'il n'y a pas assez en fait d'équipement individuel en fait. Donc avec quoi en fait, si on recrute ces 250 000 soldats, en gros, qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'on leur donne dans leur pactage, voilà. Et donc ça,
on leur donne un char, ça,
voilà,
ça ils auront
chouette.
Un char.
Mais à part ça, est-ce qu'ils auront suffisamment, je sais pas, des trucs même de munitions, de casques, de choses comme ça. Enfin voilà, est-ce que le pactage du soldat en fait, de chaque soldat individuellement est fait. Là, on le voit pas dans le programme d'achat en fait. Donc ça interroge aussi.
Mais alors la question, c'est quoi l'objectif derrière? Parce que donc on voit, l'idée, c'est de faire une armée méga massive, enfin se faire quasiment la première armée d'Europe,
en
tout cas terrestre. Enfin, on pourrait discuter longuement sur savoir comment on classe des armées, etc. Enfin, il y a toujours
en quantité.
Oui, bah en effectif, mais il y a toujours des trucs qu'ils n'auront pas. Ils n'auront pas de porte-avions, ils n'auront pas d'armes nucléaires. On n'est pas tout à fait sur les mêmes créneaux entre la France et la Pologne, par exemple. Enfin, n'empêche que eux, ils tablent quand même sur un format probablement 1500 chars de combat. Ils ont proche. Si la France en avait 150 en état de marche, les bons jours, c'est bien. Non, mais du coup, ça pose une question de c'est quoi le projet? Pourquoi est-ce que l'idée c'est de la dissuasion conventionnelle? Est-ce que l'idée c'est aussi la capacité à prêter main forte éventuellement au prochain pays qui serait attaqué? Est-ce que l'idée c'est de faire un mastodonte, c'est de devenir un mastodonte conventionnel à l'est de l'Europe et d'avoir du coup un pouvoir d'attraction, quelque sorte presque une force gravitationnelle au sein de l'OTAN? Voilà, quelle est l'idée derrière tous ces milliards qui sont dépensés dans ces
projets?
C'est
vraiment cette idée de dissuasion conventionnelle. C'est cette idée. On est un pays du flanc, on peut être le prochain à attaquer, donc il faut avoir rapidement ce qui nous permettrait, je dirais, de nous défendre. Après, il y a des trous dans la raquette, justement, notamment dans la marine. On voit qu'il n'y a pas autant d'investissement dans la marine qu'il peut y avoir, justement, dans l'armée de terre.
C'est ce que j'allais dire, c'est très monolithique, c'est pas une armée complète du tout qui est proposée, c'est une armée de terre avec des F-35.
Avec des F-35 et des hélicoptères, ouais, aussi.
Ça marche pour une guerre, ça marche pour la guerre d'Ukraine en ce moment. Il y a aussi d'autres possibilités d'affrontement.
Surtout que la Pologne a une façade maritime quand même sur la Baltique. Après, peut-être qu'il y a l'idée aussi que la Baltique va être une sorte de mer sécurisée, une sorte de mer OTAN, entre guillemets, avec l'entrée de la Suède et de la Finlande. Donc en fait, il y a une sorte de sécurisation de cet espace-là. Et l'idée que, en fait, le danger, s'il vient, c'est qu'il vient de Kaliningrad. Que d'ailleurs la Pologne s'amuse à rebaptiser dernièrement, ça s'appelle plus pour la Pologne Kaliningrad, mais ils ont redonné un nom polonais qui est Królewiec. puisqu'il y a, voilà, il y a une idée aussi que la Russie Kaliningrad n'a rien à te faire dans l'enclave.
Rappelons que c'est vraiment une toute petite enclave que possède la Russie sur la Baltique.
Entre les Baltes et la Pologne, en fait.
Toute petite enclave, mais bien équipée quand même.
Voilà, c'est ça. Il y avait quand même des estimations qui montraient que... Enfin, la présence avancée renforcée de l'OTAN, c'était 1000 soldats en gros par bataillon. Kaliningrad, on était sur des effectifs quand même de 10 fois plus minimum. Hein. Donc et puis, sans compter les missiles qui peuvent éventuellement stationner là-bas. Donc Kaliningrad, ça fait, voilà, la crainte, en fait, elle vient plutôt de Kaliningrad, elle vient plutôt de la Biélorussie qu'en fait de la mer, je dirais, de la Baltique. Surtout que la Baltique, justement, va être sécurisée par ses entrées, normalement... Enfin, la Finlande est rentrée, la Suède peut-être cet été, on verra. Donc voilà, après, voilà, il y a des trous dans la raquette, effectivement. Et le problème aussi, c'est que c'est bien d'acheter tout ce matériel, mais il faut aussi savoir s'en servir. Alors, il y a l'entraînement qui a commencé des soldats sur certains des équipements qui ont été achetés. Mais avant, en fait, de réussir à faire fonctionner tout ça ensemble et d'en faire une armée, en fait, qui déjà... en soi, en elle-même, arrive à faire fonctionner tout ce matériel et ensuite arrive à être interopérable avec les autres pays sur ce nouveau matériel, voilà, il peut s'écouler aussi un certain temps, étant donné aussi que comme on va recruter massivement, eh bien, il y a tout un nouveau personnel aussi à former pour passer de cette armée qui, donc, à l'époque de Tusk, était à 120 000 hommes et maintenant, donc, doit passer à 250 000. Donc, il y a aussi tout un effort de formation extrêmement important. Il y a une campagne de recrutement qui a été lancée par le PIS, justement, l'année dernière, et qui interroge d'ailleurs aussi cette façon de recruter et les modalités de recrutement des nouvelles recrues interrogent, parce qu'en fait, on a une sorte de... ce qu'on appelle une sorte de service volontaire. Le service volontaire, c'est quoi? C'est un mois d'entraînement de base, 11 mois de spécialisation, et ensuite, donc, on rentre dans l'armée en étant soldat. Ça interroge pourquoi? Parce que, est-ce que pour une armée, justement, professionnelle, technologique, moderne et tout ça, est-ce que ça suffit, ce temps de formation? Là où ça interroge aussi, c'est que est-ce qu'on va recruter vraiment des personnes intéressées, étant donné qu'en fait, dès le premier mois de formation, on reçoit déjà son salaire, et un salaire qui est correct, parce que c'est un salaire qui est quasiment de 5000 zlotys, c'est un salaire tout à fait correct, en fait, donc dès son premier mois de formation, on est payé, donc on peut se dire qu'il y a des gens qui vont venir juste parce qu'ils se disent « bon, 5000 zlotys, c'est pas mal, ça me permettra de vivre ». Et ça interroge aussi parce que... en fait, ces nouvelles recrues, s'ils sortent de l'armée et qu'ils veulent, par exemple, obtenir un emploi dans l'administration, en fait, s'ils ont l'examen pour rentrer et les qualifications pour rentrer dans l'administration, ils auront la priorité parce qu'ils auront effectué ce service militaire et la priorité sur des candidats qui ne l'auraient pas fait. Donc on voit qu'il y a quand même des incitations par le salaire et par aussi les possibilités de reconversion dans l'administration qui interrogent aussi sur la nature de ce recrutement. Après, c'est quelque chose qui fonctionne, puisque depuis que le PIS a mis en place cette campagne de recrutement, qui s'appelle « Deviens soldat de la République », il y a eu 14 000 déjà personnes qui ont été recrutées. Donc on n'est pas encore à 250, évidemment, mais voilà. Il n'y a jamais eu autant de recrutement aussi rapidement dans l'armée polonaise que depuis que ça a été créé. Mais on voit qu'il y a des incitations financières et qu'il y a des incitations aussi pour faciliter la reconversion ensuite.
Et c'est quoi c'est quoi l'horizon auquel scruter ça? C'est-à-dire, les chars, même les K2, ils vont pas arriver tout de suite. Les F-35, n'en parlons pas.
Les F-35 ont été extrêmement critiqués en interne. Vraiment, il y a eu beaucoup de positions d'anciens généraux. Il y a eu le chef du bureau de la sécurité nationale qui avait publiquement dit que c'était une erreur absolue de commander des F-35. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de critiques. L'horizon qu'ils ont pour certaines choses, c'est...
je veux dire, est-ce que l'objectif
2025-2030.
Voilà. Ouais.
C'est 2025-2030 s'ils continuent à ce rythme-là et si
avec l'idée d'avoir réussi à enfler mais aussi d'avoir réussi en quelque sorte à muscler la chose, à la structurer, ouais, et à être efficient. C'est à cet horizon-là qu'il faut regarder.
Voilà, c'est ça qu'ils envisagent, c'est du 2025-2030, et si aussi les fournisseurs arrivent à est-ce que les Coréens arriveront à tenir les délais pour les 1000 K2, ça, impossible de le savoir. Mais eux, c'est l'horizon qu'ils ont, effectivement. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont cette idée d'achat sur étagère plutôt que de développement de leur industrie propre. Mais voilà, c'est quand même, enfin, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que tout ce programme de modernisation est quand même extrêmement critiqué, justement parce qu'il ne fait pas suffisamment travailler l'industrie de défense polonaise qui existe, parce qu'il est fait dans la précipitation, hein, les contrats qui sont signés en un mois, c'est quand même particulier. Donc, et parce qu'en fait, le PiS, en gros, de 2015 à son arrivée au pouvoir, jusqu'à 2022, n'a rien fait pour la modernisation de l'armée, alors que voilà, les manquements étaient pointés très précisément, et qu'en fait, il aurait fallu commencer dès 2015, en 2016, à investir là où il fallait le faire, étant donné que ça aurait permis aussi des contrats à long terme avec l'industrie polonaise, et que ces contrats à long terme avec l'industrie polonaise permettent l'autonomie stratégique, comme on a dit tout à l'heure, et permettent en fait de soutenir tout aussi l'effort en termes de logistique, de maintenance et de munitions, de fourniture de munitions, quoi.
Mais enfin, tout ça pose aussi la question de la relation avec les autres alliés, parce qu'on entend bien qu'ils misent à fond sur les États-Unis, mais on en parlait récemment avec Pierre Haroche et Camille Brugier, mais il y a aussi, les États-Unis regardent ailleurs, et il y a aussi l'idée que, pour que ça marche bien en Europe, ça va pas forcément toujours tout passer par les États-Unis, que peut-être il y a l'idée de faire émerger quand même ce qu'on pourrait appeler un pilier européen de l'OTAN. Ça, de ce point de vue-là, où est-ce que ça en est? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a... Parce que... Voilà, je suis pas là pour défendre quoi que ce soit, mais ça aurait peut-être été intelligent d'acheter français ou européen, ou etc. C'est pas forcément d'un... Mais ça fait partie aussi des signes d'une coopération, de pas rester sur l'échec des caracals pour la France, ou d'acheter des avions de chasse à d'autres gens, quoi. Tout miser uniquement sur les États-Unis.
Et la Corée.
Et la Corée, qui est un pilier de l'Alliance Atlantique, comme chacun sait.
Et de l'Union Européenne.
Et de l'Union Européenne. Non, mais voilà, est-ce qu'ils ne sont pas juste en train de tout miser sur le bilatéral avec les États-Unis? Et est-ce que c'est pas aussi une des limites de cette garantie de sécurité, en quelque sorte?
Alors, le PiS, en fait, a fait aussi, en 2017, un accord bilatéral de coopération de défense avec la Grande-Bretagne.
Le truc européen de nos jours non plus, mais...
Voilà. Alors, ils n'étaient pas favorables au Brexit, le PiS, il faut savoir. Et d'ailleurs, on n'a aucune mention du Brexit, d'un supposé Polexit dans les discours des dirigeants du PiS. Hein. Ça, c'est quelque chose qui, pour eux, n'est pas du tout envisageable. Et le Brexit a été très fortement critiqué comme affaiblissant, militairement, économiquement et politiquement l'Europe. Hein. Donc ça, ils ont été très clairs là-dessus. Ils ont fait un accord de coopération de défense avec les Britanniques, donc en 2017, un accord sur les questions d'entraînement, un accord sur la coopération en matière d'industrie de défense, notamment avec MBDA, et on voit qu'il y a eu des contrats là qui ont été signés avec MBDA, et aussi concernant la dissuasion contre la Russie, puisqu'en fait les Britanniques et les Polonais ont une sensibilité assez similaire concernant la Russie. On voyait déjà les stratégies de sécurité britanniques, même dans les années 2010, qui pointaient la Russie comme une menace majeure. Les Britanniques estiment qu'ils ne vont jamais être envahis par la Russie, mais les affaires Litvinenko, Skripal, donc ces affaires d'empoisonnement sur le territoire britannique, donnent une sensibilité particulière. Et donc, en fait, ils ont un peu la même lecture en fait, de la Russie. Donc, ils se sont rapprochés aussi des Britanniques. Donc, concernant la relation avec les États-Unis, c'est une relation qui est de nouveau extrêmement forte, en fait. Biden est quand même venu plusieurs fois à Varsovie pour des visites d'État. Dans les premiers temps de l'invasion, il y a une division aéroportée américaine qui est venue stationner dans le sud-est de la Pologne, à Rzeszów. Donc ça, c'est vraiment à quelques encablures de l'Ukraine. Et c'était extrêmement symbolique, puisque c'était une des divisions qui a participé au débarquement de Normandie en 1944. Donc on renforce en fait le symbolique, et on renforce les liens entre les deux pays, en estimant de nouveau que en fait la sécurité en fait de l'Europe ne peut être garantie que par l'OTAN et les États-Unis. Et ça, en fait, c'est ça tient aussi concernant la France à une certaine défiance envers la position française. On estime que la position française concernant la Russie n'est pas claire, et d'une part n'est pas claire, et d'autre part est erronée. On ne négocie pas avec Poutine lui-même. Penser qu'on va négocier avec Poutine le 22 février alors que les plans d'invasion de l'Ukraine sont dans les tiroirs, c'est quelque chose qui est considéré comme une erreur. Et donc, il y a l'idée que les Occidentaux, en mettant de côté la Grande-Bretagne, puisque justement la Grande-Bretagne a une lecture assez similaire de la Russie, que les Occidentaux, les Allemands, les Français, tout ça, n'ont pas en fait la bonne vision de ce qui se passe sur le flanc oriental, et que donc on ne peut pas nécessairement compter sur eux.
Quelque sorte, atteindre la masse critique qui leur permet à la fois de se défendre tout seul, et puis aussi potentiellement d'entraîner d'autres autour d'eux,
bah, en fait,
que,
d'être, le leader, d'être le leader. Enfin, la Pologne est déjà de toute façon le leader des pays d'Europe centrale. Il y a un format au sein de l'OTAN qu'on appelle le Bucarest 9, qui regroupe tous les pays d'Europe centrale et orientale. C'est la Pologne qui est le leader de ce Bucarest 9 au sein de l'OTAN comme groupe de pression. Alors, l'idée que la Pologne doit compter sur ses propres forces pour se défendre, ça, c'est un constant. C'est une constante. Depuis le début des années 90, quelle que soit la couleur du gouvernement, c'est d'abord les compétences propres et ensuite les alliances. Ensuite, l'OTAN, la coopération régionale, ce genre de choses. Mais en soi, le pays doit être capable d'assurer sa défense seule. C'est vraiment le premier point. En premier lieu, ça n'a jamais été les alliances. C'est toujours le potentiel propre. Et c'est pour ça qu'on a cet investissement qui est fait aussi de façon massive. Mais ça, ce n'est pas le PiS. Hein. C'est vraiment, dans les années 90, on prend la façon de penser la sécurité de la Pologne. Et c'est toujours le potentiel propre en premier. Parce qu'aussi, la Pologne se considère comme un leader, comme une puissance régionale importante. Et donc, une puissance régionale doit être capable quand même d'assurer aussi un minimum ses arrières sans faire appel immédiatement à des alliés, quoi.
Et avec l'autre acteur qui est aussi le voisin, qui est l'Allemagne, est-ce que c'est le même genre de tension? Est-ce que c'est le même genre de réticence qu'avec la France? Parce qu'on se souvient qu'il y a eu aussi des affaires avec les léopards polonais, que les Allemands ne voulaient pas laisser les Polonais fournir directement à l'Ukraine. Bon, quelles en sont, disons, les conséquences un peu plus lointaines de tout ça?
Alors, en fait, le PiS est traditionnellement un parti germanophobe. La germanophobie, en fait, est liée à l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, à la mémoire traumatique de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il y a l'idée pour le PiS que les Allemands devraient déjà des réparations à la Pologne pour les dommages infligés. Alors là, déjà, encore l'année dernière, hein, en plein contexte de guerre en Europe, la Pologne demandait à l'Allemagne des réparations de l'ordre de 1300 milliards d'euros. Que l'Allemagne refuse de payer, évidemment. Donc on a un contexte, en fait, qui est extrêmement tendu lié à ça. On a un contexte aussi qui est tendu...
Pour rappeler que l'Allemagne a déjà payé des réparations. Enfin, c'est un truc, ça dure depuis un demi-siècle, les réparations, voilà, allemandes, mais c'est plutôt sur un titre individuel, c'est au particulier dans les...
Voilà. Bon, voilà. Mais bon, pour les dommages commis, le PiS revient régulièrement avec cette demande-là. Il y a aussi l'idée que l'Allemagne est un pays, en fait, qui n'est pas solidaire vis-à-vis de l'Europe centrale et orientale. Et ça, c'était notamment un argument qu'on entendait lors de la construction de Nord Stream 2. Puisque Nord Stream 2, il passe par la Baltique, donc il contourne, en fait, l'Europe centrale et orientale, il contourne la Pologne, il contourne aussi l'Ukraine, alors que l'Ukraine est un pays où transite le gaz. Et donc, il y avait l'idée que l'Allemagne, en fait, veut assurer sa fourniture en gaz par la Russie, sans se soucier, en fait, des autres pays membres de l'Union européenne, donc un manque de solidarité. Et donc, cette traditionnelle germanophobie du PiS fait que, évidemment, l'Allemagne n'est pas considérée comme un allié complètement fiable, hein, pour ce parti-là. Par exemple, quand l'Allemagne a proposé à la Pologne de prêter 3 batteries patriotes, l'actuel gouvernement polonais a refusé initialement en disant que non, si on veut des patriotes, on ira directement les acheter chez le fournisseur, chez le fabricant. On n'a pas besoin des vôtres, en fait. Bon, au final, ces patriotes sont installés en Pologne, mais on a une relation, en fait, qui est extrêmement tendue, liée donc à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, liée aux actions aussi du gouvernement allemand, notamment en matière d'approvisionnement énergétique, et qui fait que donc l'Allemagne ne peut pas être non plus un pays fournisseur, par exemple, pour la Pologne, pour tout ce programme de réarmement, parce que le PiS entretient cette germanophobie aussi à des motifs électoralistes.
Ouais, mais bon, donc on mesure que c'est quand même une architecture compliquée, quoi. Les 3 grands pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN, donc c'est essentiellement quand même la France, l'Allemagne et la Pologne. S'il y en a un des trois, enfin, déjà que entre les deux autres, les relations sont pas toujours simples, notamment sur les programmes d'armement. S'il y en a un des trois qui veut pas parler aux deux autres, enfin, en tout cas qui a pas envie du tout de mener des coopérations poussées, on mesure que ça affaiblit aussi tout à fait éventuellement l'émergence d'une coopération plus intégrée à l'échelle européenne, quoi.
Oui, après, le PiS va peut-être pas rester au pouvoir éternellement, et quand on avait les libéraux de Donald Tusk, de la plateforme civique, qui était au pouvoir, la relation n'était pas du tout la même avec la France, avec l'Allemagne et avec le reste de l'Europe en général. Hein, le gouvernement de Tusk était un gouvernement qui était beaucoup plus pro-européen. On se rappelle, en 2011, la Pologne avait la présidence tournante de l'UE. Et le projet qui était porté à l'époque par le gouvernement Tusk et par son ministre Radoslaw Sikorski, c'était de mettre en place un QG européen. pour que l'Union européenne puisse conduire des opérations militaires d'envergure, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle, en fait. Et ce projet avait été torpillé, et il avait été torpillé notamment par les Britanniques, hein, qui estimaient qu'il ne fallait pas dupliquer ce qui se fait au sein de l'OTAN, notamment. Donc, l'orientation pro-européenne, elle peut revenir, et les autres partis polonais, dont la plateforme civique donc de Donald Tusk, est un parti qui est justement beaucoup plus pro-européen, et en faveur, justement, même de l'émergence d'une autonomie stratégique, comme on l'a vu avec cette proposition de QG européen.
Donc je vais signaler pour ceux que toute la première partie de l'émission intéresserait particulièrement, donc tout ce processus d'adhésion, de convergence puis d'adhésion de ces pays d'Europe centrale à l'OTAN, que votre thèse a été publiée en 2019 chez Peter Lang, ça se retrouve très facile. Et je peux rappeler aussi donc que votre Que sais-je, consacré à l'OTAN, vient de connaître une seconde édition. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Tout ça est toujours très bienvenu et très intéressant, tout comme notre tour et commentaire par les outils d'Apple Podcast, de SoundCloud ou bien encore de Spotify. C'est toujours très intéressant d'avoir des retours sur les diverses émissions. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.